Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Si, être déçu de soi, ça fait plus mal que de décevoir un proche, ça veut dire qu'il faut peut-être aller vers ce qui nous fait le plus plaisir, en fait. Et moi, je sais qu'à la fin de ma vie, ce qui comptera pour moi, c'est est-ce que je suis déçue de moi ou est-ce que je suis fière de moi. Et moi, j'ai plus envie d'être fière de moi que d'être déçue de moi. Donc mes choix sont guidés par ça.
Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Stéphie, une jeune femme merveilleuse de 31 ans. Nous avons discuté ensemble de son éducation matriarcale, de son obésité, mais aussi du fait d'aller à contre-courant, de son parcours de développement personnel et de son profond besoin d'indépendance. Vous l'entendrez, nous allons aborder un sujet quelque peu sensible, puisque nous allons parler d'une agression sexuelle qu'elle a vécue étant plus jeune. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise, vous aurez un trigger warning avant que l'on en parle. C'est parti pour l'épisode du jour. Vous écoutez Bouteille à la Écoutez, bouteille à la mer. Bonjour Stéphie, merci de participer aujourd'hui à cet épisode, merci de m'avoir contactée aussi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter aux auditeurs et aux auditrices s'il te plaît?
Bonjour à toi et bonjour à tous, en tout cas à ceux qui vont écouter. Je m'appelle Stéphie, j'ai 31 ans. Je suis ergonome, donc en fait je m'occupe de tout ce qui relève de la prévention des risques professionnels dans une entreprise, et voilà, globalement.
Parfait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite interview de ton parcours, pour parler de ce que tu as traversé, pour parler de tes expériences, et comme d'habitude on va parler du début, donc de l'enfance. Quel genre d'enfant t'étais, quel souvenir t'as de cette période ?
Je dirais que j'étais une enfant curieuse. J'ai toujours été très curieuse, ouais. Mais c'est en lien aussi avec le fait que j'étais enfant unique, donc j'ai grandi dans un univers avec des adultes, et donc forcément j'avais envie de comprendre ce qu'ils racontaient, j'avais envie de faire les mêmes choses qu'eux, donc très curieuse je dirais, et aussi studieuse, parce ouais. que l'école, pour moi l'école c'était une attraction, alors je sais que d'accord. pour les enfants qui n'aimaient pas l'école c'est compliqué, mais moi j'adorais l'école parce que ça venait aussi satisfaire ma curiosité, j'apprenais plein de choses, et je faisais plein de choses, donc
toi, tu l'as
moi
vraiment
l'école
vu comme...
c'était la récréation.
Ouais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, et du coup t'avais pas d'enfants autour de toi, t'étais plus avec des adultes?
Pas trop, parce que ma mère, elle m'a eu tard, et donc soit elle avait des neveux qui avaient presque son âge, ouais. soit ils étaient tout petits. En tout cas, par exemple, quand j'étais... ils n'étaient pas nés, parce que j'ai des neveux et nièces qui ont aujourd'hui peut-être une dizaine d'années, donc c'est des cousins, mais bon, vu que j'ai 30 ans, ça fait un peu plus neveux et nièces... Ouais, non, j'avais pas trop d'enfants.
T'avais pas
d'enfants
de ton âge. Bah du coup, ça t'a permis de, comme tu dis, d'éveiller ta curiosité au final. C'est un peu un mal pour un bien.
Oui, ça fait grandir vite.
Ouais, exactement. Tu m'as confié avoir vécu dans une famille monoparentale, c'est-à-dire avec un seul parent. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience et me dire et nous dire comment tu as vécu entre guillemets cette différence par rapport aux autres enfants?
Je dois avouer que j'aime pas vraiment le mot de famille monoparentale, mais je t'en avais parlé
Oui, je te
en
laisse me corriger
préparant.
d'ailleurs si jamais.
Non, non, mais il n'y a pas de mot. Le problème, c'est qu'on a trouvé ce mot-là, mais pour moi, une personne, en tout cas un adulte et un enfant, ça fait pas une famille, du moins selon moi. Je trouve qu'il y a un déséquilibre et que l'adulte attend de l'enfant qui joue un rôle d'adulte qui n'est pas à sa place en fait. Donc c'est pour ça que j'aime pas le mot famille monoparentale
Ouais.
et c'est pour ça que moi je considère que j'ai pas grandi dans une famille, je considère que j'ai une maman, mais j'ai du mal à dire que j'ai grandi dans une famille et encore moins dans une famille monoparentale.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. T'avais pas d'autres repères que ta mère quand t'étais plus jeune?
Après, j'ai eu des nounous, mais on en parlera
Ouais.
peut-être après.
Ouais.
Et dont une qui avait une structure familiale et où là j'avais le sentiment d'avoir une famille, mais c'était pas ma famille biologique. Et des fois, l'administratif est très chiant par rapport à ça. Donc moi, en tant qu'enfant, je considérais que c'était ma famille, mais sociétalement, ce n'était pas vraiment ma famille.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et ta maman, du coup, comment dire, tu t'as vécu que avec elle et avec cette nounou, si j'ai bien compris, avec le cadre familial des nounous que tu as pu avoir. Est-ce que vis-à-vis des autres enfants, tu avais l'impression d'avoir vraiment un fossé, je dirais, entre vous? Est-ce que c'était.
Pas
Est-ce que tu
forcément
le
un
ressentais?
fossé, mais parce qu'après j'ai rencontré d'autres enfants aussi qui n'avaient pas de papa, c'est quand même assez fréquent chez nous malheureusement.
D'accord.
Mais il y a eu des moments dans leur vie où ils ont eu des beaux-pères, où ils ont eu des petits frères, des demi-frères, même si on parle pas trop de demi, on considère que quand c'est ton frère. Voilà. Et moi, il n'y a jamais eu cette évolution-là dans ma vie. Donc
Ouais.
oui, ça pas tout de suite, mais au bout d'un moment, quand bah, tous les petits copains ils commencent à avoir des petits frères et que toi tu demandes un petit frère et que bah, au début je pensais vraiment que j'allais l'avoir et puis après j'ai compris que je l'aurais jamais. Il y a un petit travail de deuil à faire.
Ouais, je comprends. Par rapport à ton éducation, déjà j'aimerais bien te demander si le fait d'avoir juste ta maman, ça a changé quelque chose selon toi. J'imagine que oui, mais de toute façon tu me diras, on pourra jamais savoir. Mais surtout, est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu une éducation genrée, c'est-à-dire une éducation particulièrement pour filles, à l'inverse par exemple d'une éducation qu'on pourrait donner à un petit garçon? Est-ce que tu l'as ressenti ça?
Bah, déjà, j'ai grandi dans un univers où il y a beaucoup de femmes. Il y avait ma mère, mais il y a aussi mes nounous. J'ai grandi avec l'image que les femmes étaient plus fortes que les hommes, même si la
Ouais.
société dit le contraire.
Ça, c'était un peu matriarcal chez toi.
Oui,
Ouais.
j'ai vraiment grandi avec cette image-là. Et après, dans le côté protecteur, moi je dirais que ma mère a été protectrice, pas non, pas parce que j'étais une fille, mais parce qu'elle était elle-même une maman angoissée. C'était plus
D'accord.
ça, parce que je voulais être médecin, donc en soi, c'était un métier. On peut dire que c'est un métier d'homme. Il y a des femmes qui sont médecins, mais ça reste. On a cette espèce, on a ce respect plus, on va dire, pour les professeurs que pour.
Complètement,
Voilà,
je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais de toute façon, historiquement, la médecine, c'était un truc masculin. Il me semble que jusqu'à longtemps, c'était pas ouvert aux femmes.
Ah, ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas eu le sentiment d'être bridée là-dessus, mais voilà. Mais j'ai grandi, en tout cas, avec les femmes au pouvoir, et je pense que ça impacte forcément la femme que je suis aujourd'hui.
Certainement, t'as l'impression d'être plus empouvoirée, je crois. Ce terme n'existe pas, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as le sentiment d'être plus à l'aise dans ta situation de femme en ayant eu une
Bah,
éducation
j'ai le sentiment que je ne suis pas prête à faire des compromis sur plein de choses. En fait,
Ouais.
je veux tout.
Ouais.
Je dis souvent ça, mais voilà, je veux avoir un métier. Je veux aussi avoir des enfants. C'est quelque chose que je souhaite. Je veux aussi prendre du temps pour moi. Je veux pas avoir à choisir
Tu veux pas faire de concessions?
Non. Et mère au foyer, il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est pas du tout pour moi. Et de même que je déteste le ménage, voilà, c'est pas pour moi. C'est des choses que je déléguerais volontiers
Mais t'as
plus
bien
tard.
raison.
C'est
T'as
ouais.
aucune obligation. C'est intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on va en reparler un petit peu après. Mais avant ça, on va parler de l'adolescence, qui est une période aussi super importante dans la construction d'une personne. Comment tu l'as vécu, toi, l'adolescence?
Alors, j'étais une adolescente très en colère.
Ah ouais?
Ah oui, beaucoup. Je commençais à remettre en cause le mode de vie de ma mère, on va dire, la
D'accord.
façon qu'elle avait de m'éduquer, ses choix. Ouais, j'étais très très en colère, comme je piquais des crises.
Ah bah
On
ça
dirait
arrive
pas hein,
souvent.
quand on voit mon joli minois, mais ouais, et d'ailleurs c'est un trait de caractère. Alors après, en grandissant, ma colère, ça a été un moteur, mais à l'adolescence, j'étais très très en colère.
T'étais en colère par rapport à ton éducation, par rapport à ton milieu de vie?
Bah, j'étais en colère pour plein de choses. Non, non, mais j'étais en colère par rapport aux choix que pouvait faire ma mère. J'étais en colère par rapport à. Je pense que j'étais. Parce que la colère, ça reflète un peu un sentiment d'injustice. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'avais le sentiment que d'être plus en fracture avec les autres. Peut-être c'est pour
Ouais.
ça aussi que j'étais encore plus en colère, je pense. Je pense que
D'accord.
quand on est enfant, on a moins conscience de ces choses-là. Et bah, l'adolescence, ça va avec le collège, on rencontre d'autres personnes. Donc peut-être que je me suis rendu plus compte à ce moment-là que ma vie était différente.
Oui, certainement. De toute façon, c'est ce qu'on voit très souvent. L'adolescence, c'est aussi le moment où on grandit, où on se construit nos propres idées et on se détache souvent aussi du modèle familial. Ça, c'est certain. Il était comment ton rapport au corps à l'adolescence?
En fait, quand je me suis posé la question, en fait, j'ai le sentiment que j'ai pas eu le temps de me poser la question de comment j'étais dans mon corps, tellement il y avait plein de gens qui avaient un avis sur mon corps. Donc, tu avais
C'est
des
intéressant ce que tu dis,
professionnels
ouais.
de santé qui me disaient que bah, j'étais pas dans la courbe. Tu avais les proches qui me disaient que j'étais trop grosse. Tu avais les camarades de classe aussi qui se moquaient de moi. En fait, avec le recul, maintenant que j'ai appris à apprécier mon corps et à le mettre en valeur et tout ça, je me rends compte qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais tellement encombrée par tous ces avis qui étaient beaucoup négatifs, hein. Après, pas négatifs, et il y avait aussi après les hommes qui me regardaient comme une femme alors que j'étais qu'une adolescente. Il y avait que moi-même, je pourrais pas te dire comment je me sentais dans ce corps, en fait. J'étais très influençable, je dirais, à ce
Ouais, je vois.
moment-là. Et donc, j'avais pas d'opinion. J'étais polluée par toutes les opinions
En
qui étaient
fait,
autour.
t'avais tellement d'avis extérieurs que t'avais pas le temps de toi-même te poser la question, c'est
Ouais, de
ça?
m'écouter surtout, ouais.
Ouais, d'accord. Et comment t'as fait pour avoir du coup ce recul et finalement aujourd'hui te sentir bien dans ton corps, comme tu le dis?
Alors déjà, après, quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à m'émanciper, hein, mais on en parlera plus tard.
Ouais.
Donc j'ai été voir un médecin qui était différent que du médecin de famille. Et moi,
Ok.
j'ai été voir un médecin blanc, ce qui est un crime en Martinique.
Et oui, parce qu'on
Donc,
l'a pas
mais
dit, mais du coup, t'es martiniquaise, donc
oui,
forcément, enfin
voilà.
forcément non, mais tu es noire. Et
Mais
ça a été peut-être, comme tu dis, quelque chose
je voulais un médecin qui avait vu autre chose que la Martinique. Et
Ok.
donc je partais du principe qu'un médecin blanc avait vu autre chose que la Martinique, donc il avait une ouverture d'esprit qui pourrait me correspondre. Et
Ok.
donc j'ai été le voir et je lui ai dit que je voulais m'occuper de ma santé, mais je savais pas encore. Je pense que j'avais vraiment envie de sortir des personnes avec qui je vivais, avec qui j'étais à l'école, voilà. Et en fait, ils m'ont envoyé à l'hôpital 2 jours. Donc j'ai rencontré d'autres enfants qui avaient peut-être aussi des histoires. Voilà, ça a été le début. Et puis après, quand je suis arrivée
D'accord.
en France, c'est autre chose. Là,
T'arrives à
j'ai
quel âge en France?
à 17 ans,
Ok.
17 ans et demi,
Ok,
après le
d'accord.
bac, en gros.
Donc en fait, c'est toi qui à 16 ans, c'est quand même assez jeune, hein, qui a trouvé les ressources nécessaires pour vraiment entamer quelque chose de nouveau et te retrouver finalement avec ton corps, en fait.
Ben, je voulais être. Ben, en fait, j'avais J'ai pas eu le choix, en fait, avant, parce que je dépendais. Parce qu'à 16 ans, c'est là où on a la carte vitale et tout ça. Ouais. Et avant, j'avais pas le choix de suivre soit là où oui, ma mère sûr. M'emmenait chez le médecin, soit où ma nounou, parce qu'elle avait aussi son médecin, et comme j'étais beaucoup avec elle, j'ai aussi été chez son médecin. J'avais pas le choix de faire ce que je pensais qui était bon pour moi, en fait. J'étais un peu. J'étais sous l'influence des adultes qui m'entouraient. Et à 16 ans, quand j'ai eu ma carte vitale, c'était mon premier passeport vers la liberté, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai été voir un médecin que je voulais. Et c'était le début, parce qu'après, ça n'a pas arrêté d'aller vers des choses qui me conviennent, moi. Mais c'était, oui, c'est ma première action vers un mieux-être, on va dire.
Ok, c'est super intéressant, mais on va en reparler juste après, de toute façon. Ensuite, après le lycée, donc comme tu le dis, à 16 ans, tu as commencé à te rendre compte que voilà, tu avais besoin de t'émanciper. Qu'est-ce que tu as fait après le lycée ? Donc déjà, t'es venue en France. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Et est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta voie professionnelle, de savoir un petit peu où tu voulais aller en tant que jeune adulte ?
Alors, je savais déjà, en fait, en rentrant au lycée, j'ai vraiment aimé l'idée de rentrer au lycée, parce que pour moi, c'était un peu... la piste de décollage vers la liberté, et je savais qu'après j'allais partir, et donc j'ai vraiment apprécié le lycée. Et quand je suis arrivée en France, mais en fait mon rêve c'était d'être médecin, je savais depuis que j'ai 7 ans que je voulais faire ce métier là bon, je le suis pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est ce qui a été mon moteur déjà pour tenir. Et c'est avec cet objectif-là que je suis arrivée en France et j'ai fait une première année de médecine. Après, je me suis rendu compte que voilà, c'était peut-être pas forcément entre ce qu'on dit, entre le fait d'être médecin, donc le résultat, et tout le chemin pour arriver à être médecin.
Ah, c'est sûr que c'est pas, t'as pas choisi les études les plus simples.
C'est sûr. Je sais pas. Je pense. En fait, au niveau de la première année de médecine, il faut savoir qu'il y a plein de matières. C'est un concours. Donc l'idée, c'est de sélectionner des gens qui sont capables d'emmagasiner beaucoup d'informations sans les comprendre, ce qui est assez compliqué pour quelqu'un de curieux et qui a besoin de comprendre pour apprendre.
Oui, mais c'est vrai, t'as raison de le dire. C'est plus simple pour quelqu'un qui a l'habitude de faire un peu du copier-coller, du bachotage, quoi, de vraiment apprendre les choses par cœur.
C'est exactement ça. La première année de médecine, c'est ça. C'est vraiment être capable de faire un peu le dictaphone et d'emmagasiner plein d'informations et de les ressortir au moment du concours. Et c'est vrai que moi, j'avais du mal à... Alors, il y a des matières où c'est assez facile, parce que j'avais déjà, par exemple, l'anatomie, c'est des matières où j'étais plutôt à l'aise et tout ça. Mais il y a des matières où moi, si je comprenais pas ce que je faisais, je pouvais pas apprendre, en fait. Et donc, j'ai compris que je n'étais pas forcément faite pour faire, en tout cas, la première année de médecine et aussi les autres années, parce qu'il y a aussi pas mal de bachotage après.
Oui, mais bon, c'est dommage de se dire que tu es obligé d'apprendre par cœur des choses sans forcément les comprendre pour réussir.
C'est comme ça que c'est construit, en tout cas, cette formation-là. Toutes les formations, elles ne sont pas pareilles. Et en fait, j'ai eu la chance d'être dans une université qui proposait une licence pour les gens qui avaient raté médecine et pharmacie.
D'accord.
Et en fait, en gros, ce qu'on apprend en un an en première année de médecine, on l'apprend en 3 ans dans la licence en question.
Ok.
Donc, et on comprend ce qu'on apprend.
Ah, oh, purée. J'imagine même pas la difficulté.
Donc voilà. Et donc et à ce moment-là, il y a eu un moment de flottement. Donc au début, je savais que je voulais être médecin. Une fois que j'ai su que j'allais pas être médecin, donc j'ai eu un petit moment de flottement où je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais rester dans les études scientifiques, donc j'ai fait une licence biomédicale, en fait, qui reprend toutes les matières des sciences fondamentales et tout ça. Et après, j'ai été là où j'étais bonne. Donc, j'étais bonne en chimie. Donc, j'ai pu spécialiser ma licence au bout d'un moment vers de la chimie. Et après, toujours curieuse, en dernière année de licence, on avait la possibilité de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec... en gros, j'avais 90% de matière autour de la chimie et de la biochimie, et j'avais la possibilité de faire un truc qui avait rien à voir avec tout ça. Moi j'ai dit ok. On avait la possibilité de faire aussi une option qui avait un lien, mais je me disais c'est dommage d'avoir la possibilité de voir autre chose et de rester toujours dans la même chose.
Ouais.
Y a pas de surprise quoi. Mmh. Et donc j'ai choisi l'ergonomie et au final je me suis rendu compte que j'étais plus douée pour me questionner sur les conditions de travail des laborantins que pour être laborantin moi-même.
Mais ça voilà. T'a plu?
Ah oui, ça m'a plu et j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc j'ai fait un master dans ce sens-là.
Mais tu vois, finalement, t'as quand même, à partir du rêve que t'avais à l'âge de 7 ans, t'as réussi à trouver ta voie et puis à aller dans des endroits qui t'ont convenu, d'autres qui t'ont moins convenu. Et puis finalement, tu fais un métier qui te plaît aujourd'hui.
Ah oui, oui, oui.
À partir de ce rêve-là. Donc c'est cool. Il y a plein de personnes qui pourraient pas dire la même chose, qui pourraient dire, moi j'ai rêvé ça, mais j'ai jamais essayé et puis je regrette.
Ah oui, non, mais moi, je ne veux pas avoir de regrets, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mmh. Mon leitmotiv dans la vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Donc, je préfère encore essayer quelque chose et que ça ne me plaise pas ou que ça ne fonctionne pas que de ne pas l'avoir essayé. Et quand je ferai le résumé à la fin, d'être déçue de moi-même.
T'as bien raison. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être inspirés par ce que tu dis. Alors, on va changer un petit peu de sujet, on va entamer sur les questions un petit peu plus centrales de notre discussion. Tu nous as expliqué rapidement et tu m'as dit dans ton mail que tu étais en surpoids. Oui. Et que tu m'as dit en tout cas que ça avait commencé depuis environ l'âge de 5 ans et que tu as été officiellement, entre guillemets, en obésité à l'âge de 10 ans où tu pesais environ une centaine de kilos. Est-ce que je pourrais te demander quel a été selon toi le facteur déclencheur de cette obésité ?
Alors, par rapport à l'obésité, je pense que il y a plusieurs facteurs, hein, parce que c'est
bien sûr.
Maintenant, ils s'accordent à dire que c'est multifactoriel. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai basculé du surpoids à l'obésité, c'est déjà la façon dont le surpoids a été traité, donc mal.
D'accord.
Parce que le fait que les médecins aient dit à ma maman que j'étais pas dans la courbe. Et donc elle s'est affolée et donc j'ai commencé un régime à l'âge de 6 ans. Mon premier régime, je l'ai fait à l'âge de 6 ans.
Okay.
Donc ça n'a pas forcément arrangé les choses d'être dans de la frustration et des aliments interdits, dès cet âge-là.
Complètement.
Et y a eu ça, je pense, qui a joué. Il y a eu aussi ce que j'ai vécu, mais on aura l'occasion d'en reparler. Qui a joué, mais dont je n'avais pas conscience à ce moment-là de ma vie. Et après, il y a aussi le passage entre... Parce que moi, j'ai eu une année d'avance, donc je suis rentrée au collège à l'âge de 10 ans. Donc, il y a eu ce passage entre la primaire, où j'étais ballottée, entre guillemets, entre chez ma mère et chez ma nounou, donc dans une cellule familiale stable et dans une cellule familiale instable. Et le collège où j'étais complètement dans la cellule familiale instable.
Okay. Parce que
raisons d'organisation, je ne pouvais plus faire la navette entre chez ma mère et chez ma nounou.
Oui, et puis comme je te disais, en plus de ça, le fait d'avoir un an de moins à cet âge-là, c'est énorme. Enfin,
j'en avais pas conscience, mais peut-être.
Certainement, et tant mieux si t'en as pas ressenti les effets, c'est beaucoup mieux pour toi, mais j'ai le sentiment que entre 10 ans, 11 ans, 12 ans, et puis même encore après, entre 13 et 14 ans, il y a des étapes en tout cas qui sont très différentes, et j'imagine, peut-être pas, mais j'imagine que rentrer un peu plus tôt au collège, peut-être que ça t'a pas aidé aussi à te sentir bien vis-à-vis de toi.
Ah ouais, j'étais petite, très petite par rapport au troisième, puis il y a aussi cette espèce de chose qui s'inverse. Quand tu es au CM2, tu es la plus grande de l'école primaire.
Ouais.
Et quand tu arrives au collège, moi, j'étais vraiment la plus petite du collège.
Ouais.
Donc, alors, pas petite en gabarit, mais en âge et peut-être aussi en état d'esprit.
Oui, complètement. Mais c'est sûr. C'est jamais facile. Et c'est vrai que ce gap, j'avais oublié ce que ça faisait. Mais c'est vrai de passer de CM2 à 6e et vraiment avec des gens qui ont, je ne sais plus quoi, la journée en 3e, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. C'est quand même c'est une vraie étape quoi. C'est une vraie étape. C'est quoi ton rapport du coup à la nourriture aujourd'hui? Tu nous l'as dit, tu as commencé les régimes super jeune. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne recommande pas et j'essaierai de mettre des liens informatifs et des choses à faire un petit peu plus dans un sens un petit peu meilleur dans la description. Donc, quel est ton rapport à la nourriture aujourd'hui? Et j'aimerais bien te demander aussi si tu as un suivi psychologique ou médical quelconque par rapport à ça.
Alors, mon rapport à la nourriture aujourd'hui, j'essaye de devenir un mangeur apaisé. Okay. Donc, ça prend du temps. Ça oui. prend du temps. Surtout qu'en ce moment, on a aussi... parce qu'à l'époque, il y avait le phénomène des régimes et tout. Mais là, en ce moment, il y a le côté être très healthy, très fit, très, qui ne veut rien dire. Mais voilà, il y a le pendant. On était beaucoup anorexie, boulimie à un moment. Et maintenant, on est beaucoup dans la bigorexie. Donc, c'est les gens qui sont à fond sur le sport, à fond sur manger sain et tout ça. C'est pas forcément mieux. donc, l'idée, c'est d'essayer de s'écouter et de faire abstraction de toutes les injonctions qui peuvent être autour. Et donc, voilà. Donc, j'essaye de tendre vers une alimentation apaisée. Déjà, l'alimentation n'est plus une béquille pour moi. Ce qui est, je pense qu'elle a été le cas quand j'étais plus jeune.
Ce qui est déjà...
Donc, c'est plus une béquille parce que y a plein d'autres choses. J'ai découvert d'autres choses. Il y a le sport, il y a les voyages. Voilà, j'ai d'autres... J'ai appris à me connaître. Donc, forcément, j'ai appris à m'apaiser de façon différente qu'en mangeant. Donc, c'est déjà ça. Et après, sur l'accompagnement, donc ça met du temps de trouver des personnes qui sont ouvertes en se disant que, en gros, même si je suis dans un processus de reconstruction, déjà, il faut qu'ils prennent en compte le fait que c'est une reconstruction. Donc, tous les professionnels ne sont pas ouvertes sur le sujet et on associe souvent l'obésité à un manque de volonté.
C'est vrai.
Ce qui n'aide pas à aller mieux. Et donc, je pense avoir trouvé mon équipe de choc pour m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie, je pense.
Et t'es suivie par quel type de professionnel, du coup ?
J'ai un coach sportif.
Ok.
Parce que... mais alors, pas que pour mon poids, mais vraiment, je pense que le sport, ça... Et on l'oublie souvent, mais ça agit sur plein d'autres domaines. Moi, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça agit sur... en cette période de Covid où on est dans la frustration maximale, ça agit sur... ça fait du bien au moral de faire une bonne séance de sport de rigoler clair. Avec son coach. Et après, il y a une partie psychologique aussi. Parce que forcément, est-ce que mon histoire impacte la personne que je suis et mes relations avec les autres. Et donc, c'est important. Et après, un médecin généraliste en qui on a confiance, je ne suis pas trop, je dirais pas à l'aise, mais je ne suis pas trop amie, on va dire, avec les professionnels de la nutrition. Parce que peut-être j'en ai côtoyé trop tôt et que je n'ai pas vraiment foi en leur façon de travailler. Mais...
D'accord.
Donc voilà, j'ai juste un bon médecin généraliste en qui j'ai confiance et c'est déjà un luxe, je pense. Et après, coach sportif, vraiment, parce que je suis déjà sportive et que j'ai envie d'aller plus loin. Et donc, elle est ce quotient plus loin qui m'aide à aller plus loin. Et la partie psychologique, c'est juste pour... parce que ça fait du bien de parler à quelqu'un qui est neutre par rapport à notre situation de vie et puis même et voilà qui peut avoir aussi qui peut être de bons conseils.
Complètement. Et d'ailleurs je voulais te reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais qu'à l'âge de 16 ans tu avais commencé déjà à aller voir un médecin pour voir un petit peu ce que tu pouvais faire par rapport à ton poids, etc. Comment t'as été, enfin, quel a été ton parcours entre 16 ans et aujourd'hui où tu es vraiment dans une approche beaucoup plus saine de tout ça ? Par quelle étape t'es passé ? Pour les personnes, par exemple,
par toutes les étapes.
Ouais, j'imagine, ça doit être vraiment long à raconter, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont être dans ta situation, et ça serait intéressant, parce qu'on n'en a jamais parlé encore sur le podcast, ce serait intéressant de pouvoir donner des conseils ou voilà, dire ce que toi, t'as appris, les choses à pas faire, les choses à... Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que t'aurais des choses à donner.
Tu vas te faire une petite synthèse des 15 dernières années.
Si tu peux, si c'est pas trop difficile.
Non, oui, c'est faisable. C'est vrai que quand j'étais... Alors, faut savoir que quand j'ai été voir le médecin, j'étais encore en Martinique. Et j'ai commencé un processus d'hôpital de jour parce que j'étais mineure. Donc, Je pouvais pas être hospitalisée. J'aurais pu, mais c'était pas justifié. Et puis ça m'aurait déscolarisée. Ça se fait ici. Je dis, ouais, c'est pas... les gens sont pas déscolarisés, mais ils font l'école dans le centre. Et nous, en Martinique, ça fonctionne pas comme ça. C'est on passe une semaine durant l'été au centre. Et après, on revient une journée par mois. Voilà, c'est, de l'hôpital... c'est un principe d'hôpital de jour. Donc on arrive le matin et on repart le soir. En fait, quand j'ai fait ça, c'était déjà pluridisciplinaire. Donc il y avait de la nutrition, de la psychologie, du sport. Sauf que je pense que j'étais pas forcément prête. En fait, j'y allais vraiment pour me faire des copains, pour voir d'autres personnes. Voilà, j'étais pas. Et puis je savais aussi que j'allais quitter la Martinique, donc c'était pas quelque chose sur lequel j'allais pouvoir. C'est comme je décidais de pas passer mon permis à 17 ans parce que j'allais partir, donc ça, j'allais pas avoir le temps de le passer. Et c'est pareil pour. Mais ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'avoir d'autres copains et d'entendre, de parler d'autres choses. Voilà,
complètement. C'était un peu. D'être aussi avec des gens qui sont un peu comme dans ta situation.
Oui, ben en fait, le fait qu'on ait le poids en point commun, on n'en parlait pas, en fait. On parlait d'autre chose. Et c'était ça aussi qui était intéressant, en fait.
Oui, complètement.
Le poids n'était plus un sujet de discussion ou pas en tant que tel. Voilà, on allait faire des balades. Voilà, c'était vraiment organisé. On cuisinait. Bon, j'aime bien cuisiner. C'était différent. Après, je suis arrivée ici, en région parisienne. Donc avec j'ai été chez un nouveau médecin qui était le médecin de la famille parce que j'ai de la famille ici, donc c'était un médecin de famille qui avait une approche différente et qui a été mon médecin pendant longtemps. Bon, après elle a déménagé, mais qui avait vraiment envie que je prenne confiance en moi plus que je perde de poids. J'ai perdu du poids durant ma première année de médecine, mais c'est l'année de médecine, hein. Je n'ai rien fait de particulier. C'est, je pense, le choc d'avoir quitté la Martinique, et le froid, et d'être arrivé dans le froid, et l'année de médecine qui est très compliquée et qui fait maigrir même les gens qui n'ont pas de poids à perdre. Donc, c'était pas volontaire. Après j'ai aussi fait des cures j'ai été dans des centres d'amincissement pour faire des cures de 3 semaines et tout. Après, ce qui était bien, c'est que pendant 3 semaines on se préoccupait de rien, tout était organisé, l'emploi du temps était organisé, mais après quand on revenait à sa vraie vie et qu'on devait tout organiser soi-même, c'était déjà plus compliqué. Donc c'est la limite de ces choses-là où forcément quand on est en structure, tout va bien, mais une fois qu'on retourne dans sa vie quotidienne et tout, moi j'étais autonome, donc j'avais pas des gens pour aller faire mes courses, pour cuisiner à ma place, pour faire mes lessives. Voilà, je devais vraiment tout gérer, et je pense que en plus de mes études, j'avais pas forcément l'énergie pour gérer tout ça.
Complètement, ouais.
Donc ça a pas forcément été fructueux. Ensuite, j'ai pris du poids, mais on en reparlera pourquoi après. J'ai pris du poids à l'âge de 20 ans, j'ai une grosse prise de poids. Et donc, je suis retournée voir ce médecin-là que j'avais vu qui était bienveillante. Et avec elle, en fait, on est parti sur. Elle a voulu me remettre au sport. Elle a mis 2 ans pour réussir, parce qu'en fait, j'avais qu'une idée en tête. Je voulais faire du patinage artistique et rien d'autre.
D'accord.
Et c'était un peu contre-indiqué par rapport à mon poids au niveau des chevilles et tout ça.
Ok.
Et j'arrivais pas à trouver autre chose. Alors je faisais plein de propositions. Il y avait toujours une contre-indication médicale et tout. Et moi, ça me saoulait. Au bout d'un moment, je me dis, on va pas réussir à trouver une activité, hein, parce que moi, je veux pas faire un sport chiant. Donc il faut que je fasse
totalement
un sport
raison. Faut faire
qui
un
m'amuse.
Sport qui nous plaît.
Il faut que je coche ta case, en gros, que tu veux que je fasse du sport, mais moi j'irai pas faire un sport qui m'ennuie, genre la salle de sport ça m'ennuie. Voilà, il fallait trouver un sport fun et on a mis 2 ans à trouver.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Au final, j'ai fait de la Zumba et donc ça, ça a été vraiment. Je conseille hein, pour tous les gens qui n'ont jamais fait de sport ou qui ont que seul souvenir avec le sport, l'éducation physique, qui n'est pas du sport. Hein, mais bon,
c'est pas le meilleur.
C'est un autre sujet. La Zumba, c'est parfait.
Ah, c'est chouette.
C'est fun, donc en fait on n'a pas vraiment l'impression de faire du sport, pour autant c'est vraiment
c'est
du sport.
Ouais, ouais.
Et ça booste confiance en soi, estime, voilà, ça fait vraiment du bien, donc ça m'a aidée. Et aussi mon médecin m'avait conseillé de faire un concours de beauté.
Ah bon?
C'est assez rare.
C'est original. Oui, c'est original.
Donc, il y a deux grands concours qui existent pour les femmes rondes. Il y avait à l'époque Miss Curvy ou Miss Ronde.
Okay.
Et donc, elle m'avait conseillé de faire ça parce que déjà, j'aurais été aussi avec des femmes qui étaient comme moi.
Ouais.
Et puis, il y aurait eu plein d'ateliers pour m'aider à m'accepter. Parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais il faut déjà accepter ce qu'on est pour tendre vers quelque chose d'autre. Et c'est très difficile, généralement, quand les gens ils veulent perdre du poids, ils ne s'aiment pas du tout, ils sont même en dégoût d'eux-mêmes, et donc ça complique le processus pour aller mieux.
Bien sûr, c'est toujours plus facile d'aimer son corps et de vouloir le faire changer parce qu'on l'aime que de vouloir le faire changer parce qu'on le déteste.
Mais c'est pas évident à intégrer comme
complètement.
Au début,
c'est
on se dit mais comment je vais faire pour aimer les bourrelets que je déteste, les bras que je déteste depuis des années.
J'imagine.
Et donc en fait c'est vrai que c'est cette aventure là ça m'a aidée. Je l'ai fait deux fois. Il y a une année où j'ai pas été élue et il y a une année où j'ai été élue, donc
félicitations.
Ça booste la confiance en soi.
Tu m'étonnes.
Et après c'est pas que le fait d'être élue qui impacte, c'est aussi tous les ateliers. Donc il y a eu des ateliers autour de la photographie, il y a eu apprendre à défiler, même se mettre en valeur. Typiquement, on a eu un exercice où on était dans une boutique et on devait choisir une tenue où on se sentait belle en fait.
Ouais.
Donc c'est des petits exercices comme ça, mais qui mis bout à bout aide à se sentir mieux dans sa peau. Et après, en parallèle, j'ai commencé le développement personnel, mais là pour le coup c'est à ma propre initiative, parce que j'avais besoin d'apprendre à me... En fait, comme je t'ai dit, je me suis jamais posé la question de savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'étais un peu... j'avais pas forcément le temps de me poser ce genre de questions. J'étais un peu sur mode automatique, il faut que je sois indépendante financièrement. Et une fois que j'ai été indépendante financièrement, j'ai pu aller plus loin que ça et commencer à me poser des questions de fond. Et le développement personnel, ça aide beaucoup.
C'est sûr. Même si c'est quelque chose qui est aujourd'hui un petit peu controversé, moi, je reste totalement d'accord sur le fait que quand on ne sait pas, qu'on ne connaît pas en tout cas le développement personnel et qu'on n'a pas conscience de tout ce que ça peut nous apporter, qu'on le découvre, Enfin, moi, je sais que personnellement, ça m'a énormément aidée sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Et même si aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, que c'est un business, que c'est de la manipulation, etc., ça n'en reste pas moins quelque chose qui aide vraiment. Donc, apprendre avec des pincettes, parce que c'est pas une thérapie, hein, ça remplace pas un psychologue, mais comme tu dis, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, je suis d'accord avec
toi. Non, ça remplace pas, mais ça apporte déjà un premier niveau de réponse, en fait. C'est...
Oui, oui.
Ne serait-ce que on va, je sais pas si on peut citer une enseigne connue de livres.
Bien sûr, tu peux. Vas-y.
On va à la FNAC et on se met au rayon développement personnel. Il y a forcément un livre qui répond à une question qu'on se pose au moment où on se la pose, en fait.
Bah oui.
Et le lire va peut-être générer une autre question qu'on ira chercher dans un autre livre ou qu'on demandera à quelqu'un. Mais voilà. Donc moi, je sais que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et que ça continue aujourd'hui. Et voilà.
Et aujourd'hui, tu as réussi à trouver ton équilibre
par rapport
à toutes ces choses, tout ce que tu as testé, les médecins, le sport,
J'ai surtout éliminé ce qui ne fonctionnait pas, oui.
Comme les régimes, j'imagine.
Oui, les régimes, les cures et tout ça. Typiquement, si j'ai 3 semaines, j'irais plus les perdre en cure. Bon, quand j'étais étudiante, ça faisait des vacances. Là, ça fait plus des vacances. Je veux des vraies vacances. C'est beaucoup plus bénéfique.
T'as bien raison.
Non, mais oui. Et puis après, je suis moins... En fait, je suis aussi sortie de cette suprématie médicale. Parce que je pense qu'il y a aussi ça qui est très, très difficile à gérer lorsqu'on est en surpoids. C'est typiquement on m'a dit que j'allais plus marcher à 30 ans. Bon, bah, j'ai 30 ans et je marche. Que j'allais jamais avoir d'enfant. Non, mais voilà, c'est des choses comme ça. Et quand on n'a pas eu de la curiosité par rapport à ce qu'on vit, quand on n'a pas été chercher les réponses ailleurs que ce qu'on nous a dit, on est tenté de croire à tout ça et on est tenté de sortir de chez le médecin en pleurs en se disant que tout va mal et que ma vie est foutue parce que je suis grosse. Voilà, c'est...
Complètement. Et puis en plus de ça, il y a quelque chose qui est quand même présent énormément dans la société, c'est la grossophobie. Et c'est quelque chose qui est aussi dans le milieu médical. Donc
qui est très, très... Alors après, c'est présent dans différents domaines, mais dans le domaine médical, c'est très présent. Alors maintenant, on a mis un mot sur les choses, donc on en parle de plus en plus. Et c'est vrai qu'il faut avoir du répondant face au médecin parce que c'est toujours, c'est tout le temps. C'est typiquement là parce que je voulais un médecin qui était proche de chez moi, quand j'ai été voir mon nouveau médecin et que je lui ai dit que je voulais faire attention à mon alimentation, tout ça. Et quand elle m'a demandé d'écrire ce que je mangeais, et donc elle a regardé ce que je mangeais, et en fait elle me dit « Oh mais je m'attendais à trouver plus de McDo, plus de trucs comme ça. » Je lui dis « Bah ça tombe mal, avec une mère cuisinière, une grand-mère cuisinière, j'aime pas le McDo. Donc... »
Non mais c'est fou d'avoir ce genre de réflexion de la part d'un médecin.
Elle me dit « Mais en fait vous mangez des choses saines, non ?» Je lui dis « Bah oui, oui. »
Oh là là.
Mais il y a toujours cet a priori de se dire... que forcément on est en surpoids parce qu'on mange des fast-food toute la journée. Mais généralement quand les gens me disent ça, je leur dis que à 10 ans j'étais déjà je faisais déjà 100 kilos et que j'ai été au McDo pour la première fois, j'en avais 13. Je pense pas que le McDo ait un impact sur
mon
poids.
Non, c'est clair, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre.
Il y a encore cet a priori là et il faut avoir du répondant. Alors généralement les médecins n'aiment pas les gens qui ont du répondant. Typiquement moi quand j'ai passé ma visite médicale professionnelle, voilà, je savais que avec le médecin ça allait pas bien se passer. Et elle a pas aimé qu'elle ait en face quelqu'un qui lui dise non, je suis pas juste une personne grosse en fait, c'est... Il y a toute une histoire et j'ai pas envie d'en parler avec elle parce qu'après je suis amenée à travailler avec elle par rapport à mon travail. Donc j'ai pas envie de rentrer dans les détails avec elle. Mais il y a plein de... Voilà, être gros, c'est pas juste un déséquilibre entre ce que l'on mange et ce que l'on dépense. Il y a plus de choses, il faut en prendre conscience. Et là récemment, ce que j'ai fait, parce que j'ai suivi un séminaire sur la naturopathie, toujours cette curiosité, hein, ça me quitte pas. Et donc dans ce séminaire là j'ai pu mettre en face de mon surpoids les causes Et donc je me suis dit que si jamais je tombais sur un professionnel de santé qui n'était pas très ouvert d'esprit, avec qui la discussion n'était pas facile, je lui sortirais ma petite fiche pour qu'il comprenne. Et je lui dirais que je peux comprendre que ça le dépasse, mais que moi je suis dans un processus de reconstruction, donc merci de ne pas perturber mon travail.
Mais bien sûr, on manque cruellement de ce genre de choses, je trouve, dans les communications avec les médecins. On a tendance à ériger les médecins comme des tout-puissants, des ceux qui savent tout, qui connaissent tout, alors que ça reste ton corps quand même. C'est un truc que j'ai l'impression on a tendance à oublier. C'est ton corps, c'est tu vis avec, et t'es la meilleure place, t'es la mieux placée plutôt pour comprendre d'où ça vient, tous les facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui tu en es où tu en es. C'est voilà, tu en parles très bien et je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que c'est important d'en avoir conscience.
Oui, après c'est parce que j'en parle parce que tu écoutes aussi. Les médecins souvent sont pas forcément à l'écoute. C'est ce qui pêche.
Bah oui, bah, on a tendance à penser qu'ils savent déjà tout, donc pourquoi ils vont aller écouter un patient ? C'est malheureusement, bien sûr, il y a des très bons médecins. Je veux pas qu'on prenne nos propos comme quelque chose anti-médecine, etc. Il y a des très bons médecins, mais il y a quelque chose qui quand même est là, c'est que la grossophobie est internalisée, que c'est quelque chose qui est dans la société et qui malheureusement peut amener à des dérives et des violences même dans le milieu médical. Donc il faut quand même en parler. Et je suis contente que on puisse en parler aujourd'hui. Donc merci beaucoup.
Rien.
Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour de tout ça. Je laisserai un maximum de liens utiles dans la description, comme d'habitude. Si t'en as, n'hésite pas à m'en envoyer. Je les mettrai aussi. Mais là, on va pouvoir changer un petit peu de sujet. Et on va aborder un sujet qui peut être un petit peu plus sensible. Donc, je fais un petit trigger warning aux personnes qui seraient peut-être sensibles au sujet tel que les attouchements dans l'enfance. Vous pouvez avancer un petit peu l'interview ou juste changer d'épisode. Donc on va parler de ce que tu as vécu, ce dont on parle un petit peu sans en parler depuis le début. Tu as accepté de parler de ça, donc je te remercie. Tu as été victime d'attouchements sexuels à l'âge de 7 ans. Donc déjà merci pour le témoignage que tu vas nous apporter, merci pour ta confiance. J'aimerais te demander comment est-ce que tu as vécu avec ce traumatisme tout au long de ta vie et comment ça t'a affecté et comment tu vis avec aujourd'hui.
Alors, faut savoir que j'ai vécu ça quand j'avais 7 ans, mais c'est un peu quelque chose que mon cerveau a choisi d'ignorer. Déjà, j'avais pas conscience du fait que c'était mal.
D'accord.
Faut se remettre dans la position d'un enfant face à un adulte et tout.
Bien sûr.
Donc, j'avais pas forcément conscience que c'était mal. Et c'est quelque chose vraiment que mon cerveau a fait abstraction pendant plusieurs années. Et à 20 ans, je suis revenue en Martinique. Donc après être partie en France pour mes études, je suis revenue en vacances. Et je suis retournée dans ma chambre d'enfant. Et j'ai découvert dans ma chambre... J'avais des cadeaux d'anniversaire, donc plusieurs cadeaux d'anniversaire. Et parmi ces cadeaux d'anniversaire, il y avait un cadeau de mon agresseur, c'était des inséparables. D'accord. Sauf que quand moi, j'ai reçu ce cadeau-là en étant enfant, ça m'a fait plaisir. C'était un petit gadget, une boîte à bijoux, voilà, tout mignon et tout. Sauf que quand je suis revenue en étant une jeune femme à l'âge de 20 ans, je n'ai pas vu ce cadeau-là de la même façon.
T'as compris un petit peu plus.
J'ai commencé à avoir des souvenirs et à me dire que ce qui s'était passé n'était pas normal. Et j'ai pas su gérer. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de poids à l'âge de 20 ans.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure,
J'ai pas su gérer cette situation-là. J'ai pas su en parler non plus. Je savais pas à qui en parler. Et donc, ça a été un moment assez, assez compliqué. Et la première fois où j'en ai parlé, c'était à un médecin. Et donc, en fait, on m'a répondu que c'était très fréquent chez les personnes obèses. Et donc là, généralement, quand tu as du mal à en parler, quand tu mets 3 ans à en parler, et qu'en plus que tu en parles, on te dit que tu es une personne de plus dans les statistiques...
Ouais, ça fait mal.
Ça fait mal et ça met en colère. Clairement, sur le moment, j'étais vraiment en colère en me disant... que j'aurais peut-être mieux fait de ne pas en parler. Mais maintenant, je sais que non, parce que parler, ça fait partie du processus de reconstruction. Mais sur le moment, je me suis dit, je ne l'ai peut-être pas dit à la bonne personne. En même temps, je ne savais pas à qui d'autre le dire.
Et tu ne peux jamais savoir comment les gens vont réagir de toute façon.
Oui, par rapport à ça. Et comment ça impacte ma vie aujourd'hui? Dans certaines situations, mon enfant intérieur, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le développement personnel, surréagit. Typiquement, si on me touche en venant du dos, si je peux sursauter, je peux avoir peur. J'aime pas que certaines personnes me regardent. En fait, quand j'étais petite, j'ai pas pu dire non, et aujourd'hui que je suis capable de dire non, je supporte pas que des personnes à qui je n'ai pas donné l'autorisation me regardent. Donc ça fait beaucoup de personnes hein, quand même.
Oui, là, mais c'est compréhensible aussi de par ton histoire. T'as pas à t'excuser de ça. C'est complètement compréhensible.
Et voilà, c'est. Et puis après, typiquement, je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui ressemble à mon agresseur.
Bien sûr.
Ça fait partie de mes non négociables à vie.
Ça, c'est totalement normal. D'ailleurs, ça me rappelle ma propre histoire. Je vais me permettre de faire une toute petite aparté. J'ai aussi été victime d'agression il n'y a pas très longtemps. Et c'est ce que je disais, j'en parlais sur un podcast, c'est ce que je disais. De la même manière que toi, j'aurais énormément de mal à avoir une relation, ne serait-ce qu'amicale, avec quelqu'un qui lui ressemblerait. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est... En fait, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans son inconscient et dans sa conscience tout court, que juste physique, même si c'est pas la même personne, c'est très difficile d'aller au-delà de ce qu'on a vécu. Surtout toi, j'imagine que c'est encore un degré au-dessus.
C'est pas forcément compris par les gens, mais ça fait partie des choses, voilà, que pour être en accord avec moi-même et bien avec moi-même, c'est des choses qui sont pas possibles, mais c'est pas... C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai dit à mon médecin et tout. Et voilà, c'est pas possible.
C'est totalement normal. Du coup, tu disais que tu as vécu une amnésie traumatique. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pu être suivie par un psychologue pour aller mieux?
Non, au début, non. Parce que quand j'en ai parlé au médecin et que j'ai eu l'accueil, voilà, ça m'a un peu refroidie. Après, on en a reparlé. Elle m'avait conseillé de me rapprocher d'une association. Je me suis rapprochée d'une association, sauf que pour eux, je n'étais pas assez traumatisée. Ça, c'est... Il y a une hiérarchie aussi dans les agressions sexuelles. Okay. Tout dépend du point de vue, mais voilà. Donc, ce que j'avais vécu n'était pas assez grave pour qu'ils puissent m'accompagner. Okay. Avec tous les guillemets que je mets autour de grave, hein, parce que...
Bien sûr.
Parce que voilà. Donc j'ai pas forcément été accompagnée sur ce sujet-là. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que des personnalités en parlent en fait. Il y a eu le phénomène MeToo et je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidée. D'une part parce que je me suis sentie moins seule face à ce que j'avais vécu et aussi je me suis dit que ça pouvait arriver à tout le monde parce que des femmes que je pouvais admirer à la télé et tout avaient vécu la même chose que moi. Voilà, il y a eu cette libération de la parole et je pense que c'est ce qui m'a le plus aidée face à ce que je vivais. Mais j'étais en même temps, je t'ai partagé parce que j'étais contente d'une certaine façon de ne pas être seule. Et en même temps, j'étais effarée du fait qu'il y ait autant de personnes adultes qui ont subi des violences sexuelles durant leur enfance et qu'il n'y ait aucune réponse face à ça. Mais voilà, peut-être que ça va changer, mais pour le moment, sauf si on est dans des situations qui ont été détectées, parce que je sais que j'ai une amie qui a subi des agressions durant son adolescence et ça a été pris en charge, et donc elle a été engagée dans un processus judiciaire et tout, mais c'est rare, en fait, ce genre de cas, c'est souvent des cas qui sont oubliés et qui reviennent très violemment
en
mémoire, et... Ouais. Et face à cette espèce de violence, il n'y a pas de réponse, en tout cas, pas à ma connaissance.
Mais en plus, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que quand tu en as parlé au médecin, ou à la médecin, c'était une femme, hein, si je ne me trompe pas. En fait, la réponse que tu as eue, c'est « vous êtes normal », en fait. C'est presque ça. C'est « vous êtes juste une parmi tant d'autres », et c'est très violent d'avoir ça comme réponse. Et tu disais qu'avec le mouvement MeToo, etc., et même MeToo Inceste, qui est un peu plus récent, la libération de la parole, ça t'a aussi aidé. C'est c'est heureusement que ça a commencé comme ça, mais malheureusement, je pense que ce qu'il faut libérer aussi, c'est ce que beaucoup disent, c'est l'écoute. Parce que on peut parler tout ce qu'on veut, on peut dire autant de fois qu'on veut qu'on a été victime, si la personne en face n'est pas capable d'écouter et d'entendre, et non, sans forcément apporter des solutions, tu vois, mais juste entendre, être bienveillant et comprendre et être capable d'accompagner la personne qui se confie. Si on n'est pas capable de ça, on ne pourra pas avancer. Donc j'espère autant que toi qu'on va réussir à former les gens, à rendre, peut-être pas ça normal, mais rendre ça audible, de pouvoir avoir la capacité de recevoir aussi un témoignage, de se porter comme quelqu'un de confiance pour recevoir la parole de quelqu'un. Et je suis désolée pour toi que tu n'aies pas eu cette chance-là, mais j'espère en tout cas que ça va aller mieux. Et c'est aussi avec ce podcast que tu peux aider les gens à ton échelle à se sentir un peu moins seul. Et j'essaye aussi de le faire de mon côté, de dire ce que vous avez vécu, c'est pas normal. Maintenant, c'est pas pour autant que vous devez pas en parler, vous avez le droit de le dire. Si la personne en face n'est pas capable de recevoir votre parole, c'est son problème. Voilà, c'est vous, vous êtes victime et vous avez le droit de vous faire entendre. Je pense que c'est vraiment le plus important et c'est ce qu'il faut dire.
Oui, oui, non, mais l'idée d'en parler aussi, c'est que moi, ça m'a aidé de le témoignage
oui,
d'autres personnes. Donc,
bien sûr.
À ma petite échelle aussi, si je peux aider en parlant de ce que j'ai vécu.
Et aujourd'hui, comment tu vis du coup avec ça?
Hormis les faits que j'ai cités tout à l'heure, j'ai pas le sentiment que ça impacte ma vie plus que ça. J'ai fait le choix de pas me lancer dans une bataille judiciaire parce que je considère que la justice n'est pas juste, mais ça c'est mon opinion.
De toute façon, t'as le droit de pas le faire.
Et que en plus le fait d'être en France et que potentiellement ça serait en Martinique, voilà ça.
Oui oui c'est sûr.
Ça générerait plus de complications que de bien-être, donc en fait je veux aller mieux, en tout cas j'ai travaillé à aller mieux, mais pas, en fait j'ai pas trouvé mon bien-être dans ce parcours-là. Donc j'ai plutôt été dans du développement personnel, dans de l'affirmation de soi, voilà. C'est le chemin que j'ai choisi.
T'as raison, si c'est plus en accord avec toi et si tu penses que ça te fait plus de bien, rien ne te force à porter plainte, rien ne te force à entamer, comme tu dis, tout cet arsenal juridique. Et comme tu dis, le développement personnel, ça peut aussi être une vraie solution. J'allais te demander pourquoi tu as décidé d'en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est assez clair. Tu as envie d'ouvrir la parole sur le sujet.
Oui, ouvrir la parole sur le sujet et puis surtout aider les gens à ne plus avoir honte. En fait, on n'est ni coupable ni responsable de ce qui s'est passé. Mmh. Et c'est toujours bon de le rappeler parce que souvent on essaye d'inverser les rôles et non c'est la personne qui a agi qui est coupable, et dans mon cas parce que j'étais mineure et que je dépendais d'adultes responsables, c'est les adultes qui étaient responsables de moi qui sont responsables, voilà. Donc c'est important de le dire
complètement, et merci beaucoup pour ton témoignage, c'est très courageux de ta part. Alors aujourd'hui, c'est ce que tu nous dis depuis le début de cette interview, tu es une femme accomplie et indépendante, ça a été très important pour toi, comme tu nous l'as dit depuis le début, d'être indépendante, surtout, d'être indépendante pardon, financièrement. Tu parles aussi du fait d'être indépendante intellectuellement, c'est ce que tu m'as dit aussi dans ton mail. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que ça veut dire et ce que ça représente pour toi, le fait d'être indépendante intellectuellement et financièrement aussi, forcément?
En fait, ce qui m'a permis d'être indépendante intellectuellement, c'est déjà d'avoir une indépendance financière, parce que une fois que tu payes ton loyer, tu peux envoyer balader qui tu veux, sauf mon chef, hein. Mais
ouais.
ça m'a ouvert. Je parlais tout à l'heure du fait que ma carte vitale a été mon premier passeport vers la liberté. On va dire que mon premier salaire a été aussi un passeport, une sorte de clé comme dans Fort Boyard pour la liberté. Et ça m'a permis d'envoyer balader pas mal de choses qui pouvaient être limitantes dans ma vie. J'ai grandi sur une île avec une importance beaucoup trop importante donnée au regard des autres, par exemple. à la vie des autres, avec aussi une suprématie des parents. Voilà, il y avait plein de choses. Sur le fait d'être indépendante financièrement, ça m'a permis de m'émanciper de pas mal de choses et de gagner en indépendance intellectuelle, parce que j'ai remis au centre de ma vie mon intuition, mes opinions, mes valeurs. Voilà, je me suis... C'est comme si j'avais fait un reset à l'âge de 25 ans où voilà, j'essaye de mettre dans ma tête et dans mon corps des choses qui me font du bien, mais parce que je me suis écoutée.
T'as bien raison. Et comment tu fais du coup pour être alignée maintenant avec tes propres valeurs, tes propres idées, sans te faire influencer par les attentes de tes proches, de la société aussi? Tu me parlais du fait que tu avais décidé de ne pas pardonner à ta mère alors qu'on pourrait vouloir que tu le fasses, alors que dans l'imaginaire collectif, on pardonne à ses parents. Comment tu fais pour toi rester juste avec ce que tu penses et ne pas avoir tendance à voilà, te faire malheureusement influencer par ce que tes proches attendent de toi ou ce que la société attendrait de toi?
En fait, y a plusieurs choses qui m'aident là-dessus. Déjà, j'ai défini mes valeurs, donc ça aide à être en accord, il faut les connaître. Par rapport à ma mère, je considère qu'on peut accorder son pardon à quelqu'un qui s'est excusé. Et ma mère, elle a toujours été dans une ligne de conduite où elle a tout bien fait. Et donc, c'est difficile pour moi de lui accorder un pardon si elle-même ne reconnaît pas qu'elle a failli dans son rôle de mère. Voilà. Donc, c'est entre autres pour ça. Et après, pour rester en accord avec mes valeurs et aligner, ce que je me pose la question, c'est quand je prends une décision, est-ce que j'aurai des regrets? En fait, moi, quand j'ai commencé le développement personnel, le premier exercice que j'ai fait, c'est de faire mon éloge funèbre.
D'accord.
ce qu'on allait se souvenir de moi. Et j'aimais pas du tout cet éloge funèbre. Et mon objectif, c'est que à la fin de ma vie, peut-être que je l'écrirai avant, je sais pas, l'éloge funèbre, je veux qu'on se souvienne de moi d'une certaine façon. Et donc l'idée, c'est que les actions que je mets en place vont enrichir mon éloge funèbre ou enrichir ma vie mieux.
oui, c'est un peu plus joyeux, mais je vois l'idée, je vois très bien ce que tu veux dire.
Et donc typiquement, si je dois prendre une décision qui va à l'encontre de la société ou à l'encontre de ce que... Bah, en fait, déjà, j'ai compris qu'il fallait accepter de décevoir son entourage pour être heureux. Donc, mais après, tout le monde n'est pas OK avec ça. Je me rends compte au niveau des études. Il y a beaucoup de gens qui, à mon âge, sont en reconversion professionnelle parce que durant leurs études, bah, ils ont fait des études pour plaire à leurs parents. Et à 30 ans, maintenant qu'ils ont les moyens, ils s'orientent vers des choses qui leur plaisent à eux, en fait. Ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, tout de suite, j'ai voulu faire... Quand j'ai vu que j'étais pas bien en médecine, ma mère... Elle a failli me renier hein, par rapport à ça. Je lui dis, mais oui, mais je ne vais pas aller faire un... Ben déjà, je pense que je n'aurais pas eu l'année de médecine, donc on aurait perdu encore plus d'argent. Et surtout, je lui dis, mais je ne vais pas aller faire un métier que je n'aime pas sous prétexte que c'est le seul métier que tu connaisses, en fait. Parce que ma mère, il y a deux métiers qui existent, c'est médecin et avocat.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ça limite un peu les possibilités.
Oui, non, mais voilà, donc quand j'ai décidé d'arrêter médecine, ça a été un vrai conflit entre nous par rapport à ça, mais j'ai pas lâché l'affaire et pareil quand j'ai dit bon ben finalement ça sera pas la chimie non plus, j'ai pas non plus lâché l'affaire donc ce qui fait que le métier que je fais aujourd'hui, je l'ai vraiment choisi. Et donc déjà là, j'avais été à contre-courant de ce qu'on attendait de moi, en fait. Mais je peux comprendre que ça soit pas évident. Pour autant, c'est vraiment ça vaut le coup de se poser vraiment la question des regrets. Je pense que c'est ce qui peut aider quand on est face à un dilemme et qu'on n'arrive pas, c'est de se dire est-ce que quand à la fin de ma vie, si j'ai pas fait cette chose-là, est-ce que je serais déçue de moi? Si être déçue de soi, ça fait plus mal que de décevoir un proche, ça veut dire qu'il faut peut-être aller vers ce qui nous fait le plus plaisir, en fait. Et moi, je sais qu'à la fin de ma vie, ce qui comptera pour moi, c'est est-ce que je suis déçue de moi ou est-ce que je suis fière de moi. Et moi, j'ai plus envie d'être fière de moi que d'être déçue de moi. Donc, mes choix sont guidés par ça. Et moins guidée par le fait de décevoir ma mère, parce que pour plein de raisons, je l'ai déjà déçue, donc je suis plus à ça près.
Ok. T'as raison. Et c'est ce que je dis souvent, on est la seule personne avec qui on sera obligé de vivre toute notre vie. Donc, autant s'écouter et faire nos propres choix. T'as bien raison. Bon, ben, on arrive sur les petites questions de fin d'interview. Les petites questions que j'aime bien poser à mes invités pour conclure. La première, c'est si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc par exemple dans 5 ans, qu'est-ce que tu aurais à te dire et qu'est-ce que tu voudrais te dire ?
Je dirais à mon moi dans 5 ans, je lui dirais de continuer, même si c'est pas tous les jours évident, que ça valait le coup de faire certains sacrifices pour en récolter les lauriers aujourd'hui.
C'est quoi tes objectifs pour l'avenir ?
Ah, on en a parlé au début, il y a 3 choses qui sont vraiment importantes pour moi. C'est que j'aimerais avoir une famille, vu que j'ai le sentiment de ne pas forcément avoir grandi dans une famille. Donc j'aimerais construire une famille aimante, où il y a de la communication, où on respecte l'autre. J'aimerais avoir des enfants. Ça, ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis longtemps et qui me motive depuis longtemps. Et après, j'ai le sentiment que perdre du poids, ce serait une façon aussi de me dire que j'ai dépassé ce qui m'est arrivé, en fait. Donc, donc je pense que ça en fait partie des choses à atteindre. Je pense que quand on est bien, quand l'équilibre, il est bien, je serai jamais mince et je souhaite pas l'être, mais je pense que je pourrais être moins grosse.
Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui ?
Je peux dire, ça dépend des moments, c'est comme se trouver belle le matin, ça dépend des jours. Mais j'ai le sentiment que je fais les choix pour diminuer, en tout cas je fais des actions qui diminuent l'espace entre celle que je suis et celle que je veux être. Donc je tends à être heureuse.
Et puis pour terminer cet épisode qui a été riche en beaucoup de sujets dont j'ai adoré discuter avec toi, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutés, que ce soit sur les choses dont on a parlé ou sur autre chose ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ?
Ça dépend ce qui les a le plus touchés dans tout ce que c'est j'ai ça, pu
on sait,
dire.
On ne sait jamais à qui on parle, mais j'aime bien cette question.
D'oser vraiment vivre ce qui fait envie, parce que c'est ce qui va permettre de garder la motivation déjà de rester en vie, et aussi c'est ce qui permet d'être épanoui et d'être heureux, et donc ça vaut vraiment le coup d'oser. Donc si jamais il y a des gens qui osent pas, qui ont peur, et puis après j'aime bien dire que là où on vient ça détermine pas qui on devient, donc je compare mon histoire à un loto de la loose. Donc on peut avoir tiré le loto de la loose à la naissance et petit à petit changer les numéros en numéros gagnants. Donc ça
vaut le coup,
même si ça se fait pas d'un coup, mais normalement à la fin normalement on a le jackpot.
Bah merci beaucoup Stéphie.
Bah merci à toi de cette opportunité.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je t'invite dès aujourd'hui à soutenir Bouteille à la mer en mettant 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi venir t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram de Bouteille à la mer que tu retrouveras en description. Pour me donner des idées de sujets à aborder, témoigner toi-même sur une thématique en particulier ou me contacter pour partager ton témoignage dans une interview sur ton parcours, sur tes combats, sur ton vécu, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteillealamer-podcast@outlook.fr. Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.